Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte.
Salle, tout le monde ne suit pas. La vieille O'Leary préfère rester dans sa contemplation des tableaux et n'a pas l'air très intéressée par ce que peut-être elle sait déjà. Par contre, son enfant fils va se joindre à l'audience. L'homme avec qui discutait Nelly se joint aussi à l'audience. Ainsi que l'un des toréadors, celui avec un air un peu british. J'imagine du coup que Pete, Armance et Marcy se joignent également au groupe.
Oui, si d'ailleurs que le fils laisse sa mère seule, elle va essayer de trouver une place, si on est assis ou debout du moins, à côté du fils.
Ah bien, oui. Tu t'installes à côté de fils, effectivement.
Et elle fera sentir eh bien, son regard mutin, son sourire tout aussi mutin en sa direction, comme si elle essaie de le deviner, tout comme il avait fait de manière extrêmement froide envers Pete. Sauf que elle, c'est d'une manière totalement transparente qu'elle le fait.
À l'inverse, Pete va se mettre à l'exact opposé d'Armance et de Fils. Il côtoie suffisamment de Barjo pour profiter d'un petit moment d'isolement.
Pete se retrouve à côté de la personne avec qui parlait Nelly. Du coup, toute cette petite assemblée se retrouve dans une autre pièce de la galerie, à peu près similaire, mais il y a un bureau qui est installé dans un coin et auquel va s'installer Nelly. Il invite Ulysse à s'asseoir face à lui.
Bah je prends place face à lui, alors.
Très bien, nous allons commencer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette affaire ne sera pas gérée par le prince ou par le shérif Balthazar, qui sont occupés par des affaires plus urgentes. Il s'agit ici d'un cas de brèche de la mascarade, et Monsieur Hayden vient ici présent expliquer la situation et ce qui a été fait pour préserver la mascarade suite à cet incident. Pourriez-vous nous rappeler les faits, Monsieur Hayden ?
Avec plaisir. Donc nous étions hier, au Lincoln Park Community Center.
Vous dites nous, et il y avait d'autres personnes ?
Évidemment qu'il y avait d'autres personnes, puisque c'est une distribution alimentaire pour les gens défavorisés. Donc moi-même et l'équipe du Community Center étions là pour distribuer ces repas.
Des proies parfaites ?
Sans doute, pour qui, pour vous peut-être, je ne sais pas. Nous nous écartons.
Reprenez, en effet, reprenez.
Donc, lors de cette distribution, est arrivé un fâcheux incident, puisqu'un individu qui participait à la distribution alimentaire, et qui s'appelait Monsieur Mackenzie, a malencontreusement arraché un des membres supérieurs, le bras gauche, si ma mémoire est bonne, d'un des volontaires du Community Center, le dénommé Marcus. Évidemment, vous vous rendez bien compte que le fait qu'un bras soit arraché de manière si brutale et avec autant de facilité apparente par un mortel nous a paru, je dis à moi-même évidemment, mais à l'Assemblée aussi, a tout de suite choqué l'Assemblée. Moi-même, je me suis occupé de masquer les faits un peu en m'occupant de la blessure du dénommé Marcus pour que personne ne puisse trop s'en approcher et comprendre l'ampleur des dégâts et réaliser à quel point les choses étaient étranges. Puis, donc prenant renseignement autour de moi, j'ai donc identifié le dénommé Mackenzie comme étant l'auteur de l'arrachage de bras.
De la brèche ?
La brèche, si vous souhaitez l'appeler comme ça.
C'est une brèche de mascarade, c'est le terme que nous utilisons.
Oui.
Bon, pressé, monsieur Hayden, je me doute bien que l'éloquence n'est pas forcément votre forte, mais...
Oui, vous m'avez interrompu.
Nous sommes ici assemblés pour régler cette affaire et je pense que nous avons tous des choses plus intéressantes à faire. Donc, s'il vous plaît, allez droit au but.
Ulysse est un peu saoulé qu'il ait critiqué son éloquence ou quoi. Il parlait quand même dans le temps, machin, même s'il n'était pas forcément très fort. Il avait l'habitude.
Oui, ben je pense que c'est une pique volontaire.
Et si vous voulez aller droit au but, il se tourne vers Marcy. Je vous présente Marcy, qui vous racontera la suite des faits de bien meilleure manière. Et il se lève de la chaise et il invite Marcy à prendre sa place.
Les yeux de Nelly s'ouvrent un petit peu de surprise, du genre « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il me raconte Monsieur Hyde, c'est à vous de répondre des faits. N'impliquez pas d'autres personnes qui ne sont pas concernées. »
Armance va créer une fausse mimique de choc, de scandale pour se dissocier d'Ulysse, hein, je préviens.
Bah, vous vouliez aller droit au but. Je vous ai dit, ce bras a été arraché par cette personne. La suite des informations, la dénommée Marcy ici présente, pourra vous les fournir. Elle est venue exprès pour ça. Ce serait dommage de vous en priver. Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Puisque ce n'est pas moi qui ai provoqué l'incident.
Nelly tourne son regard vers Marcy. C'est vrai, c'est vous qui en savez le plus ?
Oui, oui, bah oui. Non, parce que... déjà, confier une enquête à un petit chaton gangrène comme ça, on peut douter quand même de la pertinence du choix du personnel. Et effectivement, c'est avéré que j'ai des liens avec ce community center. Je connais des gens qui en sont bénéficiaires. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait un gangrène qui tournait autour, je me suis inquiété de ses intentions. Il m'a raconté l'histoire et j'en sais un petit peu plus, effectivement.
Pendant ce temps-là, du coup, Pete se trouve à côté de l'homme au faciès un peu rude, barbu, nez proéminent, oreille décollée, quelqu'un qui visiblement n'a pas vraiment été gâté par la nature quant à son physique. Celui-ci a l'air un peu inquiet. Au début, quand l'audience commence, il a l'air d'écouter pour voir de quoi il est question, mais quand il voit qu'il s'agit juste d'une histoire de brèche de mascarade, ça a l'air de le soulager. Il lui échappe une parole qui intéressera peut-être Pete et il dit... Ah, ce n'est pas ça, du coup. Oh, je suis bien rassuré.
Je pense que je me penche doucement vers lui et je lance, histoire de lui faire savoir que j'ai entendu sa remarque. Vous semblez soulagé, vous redoutiez plus grave.
Ah, vous n'avez pas entendu, mais il semblerait que les membres de mon clan sont menacés. Il dit ça à voix basse, de manière assez discrète, pour pas déranger l'audience qui a lieu. Sur le ton de la confidence, il dit « Je préfère encore rester à l'Elysium tous les soirs plutôt qu'à me risquer dehors. »
Je reste silencieux quelques instants et... non, je pense que j'en dis pas plus pour le moment. J'ai pas envie d'attirer l'attention sur nous pendant le procès.
Très bien.
Je vais simplement le surveiller d'un coin de l'œil, histoire qu'il file pas en douce avant la fin et peut-être pouvoir l'interpeller... qu'on puisse s'étendre un peu plus sur ce sujet. Il a l'air d'avoir quelques infos qui pourraient nous intéresser.
De l'autre côté, Fils réagit d'une manière un peu surprenante au petit regard mutin que lui adresse Armance de temps en temps. Il dit de manière assez crue « Si vous voulez me bouffer, faut me le dire tout de suite. »
« Hein ? Non, non. »
Et là, il reprend un sourire un petit peu angélique, comme s'il n'avait rien dit. Il hoche la tête gentiment et reporte son attention sur la discussion entre Marcy, Nelly et Ulysse.
Elle va donner un petit coup d'épaule à Fils, du coup, et dire « Ah, que j'aime les Malkaviens. Vous êtes dans votre esprit éclectique et détraqué. Il y a tant de pertinence et vous voyez tellement de choses. Pourquoi des miens trouvent que j'ai des choses à partager avec vous ?»
Il a un sourire... assez large, mais qui donne presque un air carnassier à ce jeune homme bien sous tout rapport.
Alors, désolé, mais c'est un énorme turn-on pour Armand. Ça va s'approcher de son oreille et dire...
Armand va finir dans un donjon attaché à des chaînes.
Elle va lui chuchoter du coup à l'oreille.
Et j'aime beaucoup... l'aspect angélique que vous dégagez, mauvais garçon.
Puis elle va elle aussi se reconcentrer devant l'audience.
Il lâche la tête sans rien dire, mais visiblement, soit Armance a une touche, soit effectivement elle va finir dans un souterrain attaché à des chaînes. Mais là, ça va être à Marcy de s'exprimer du coup. On t'écoute, Marcy.
Eh bien, votre honneur, chère audience. Donc déjà, brèche de la mascarade. Peut-être... Alors descendre d'un ou deux tons, on parle là d'un clodo qui a blessé quelqu'un sur un community center, tout le monde s'en fout, les mortels, les descendants, tout le monde. simple histoire de voilà, quelques bobards, une histoire de stéroïdes, de couteaux dissimulés, fait largement l'affaire. Et en termes de brèche de la mascarade, je pense que on est dans ce qui se fait de plus pathétique et qui n'a de toute évidence vocation qu'à occuper des bureaucrates.
Là, Nelly intervient en disant « Nous avons tout de même dû nettoyer derrière vous. »
Nettoyer ? Qu'est-ce que vous avez nettoyé ? Encore une fois, c'est moi qui me suis occupé du... qui ai traqué Mackenzie qui me l'a fait disparaître.
Eh bien, le shérif et ses hommes sont apparemment allés à l'hôpital pour s'occuper de ce Marcus et des médecins qui ont constaté sa blessure.
Oui, comme d'habitude, mais quand on a une tête de marteau, tout ce qu'on voit ressemble à un clou. Les méthodes du shérif pour protéger la mascarade sont les siennes et j'ai quand même plutôt peur que ça ait créé plus d'effroi et d'interrogations et de questions et peut-être d'enquêtes plus tard.
Ah, c'est dommage qu'il ne soit pas là pour vous entendre, je suis sûr qu'il serait ravi d'entendre vos insinuations. Enfin, poursuivez, qu'on termine avec cette histoire.
En traquant ce SDF pour savoir d'où provenaient ses pouvoirs, il s'avère que j'ai fait la découverte d'un réseau clandestin de descendants qui, de toute évidence, projette des actions a priori militaires contre la cour de Chicago et qui seront très certainement responsables de faire circuler de la vitae à des humains désespérés pour créer du chaos et sans doute couvrir leurs pistes. Donc je pense que c'est un sujet autrement plus grave.
Nelly paraît un peu choqué par ce que dit Marcy et il dit c'est assez grave ce que vous nous dites ici. Vous pensez réellement qu'il y a des descendants qui préparent une action contre la cour ?
Tout à fait, sinon j'aurais laissé ce petit chaton.
Personne n'oserait défier le prince Lodin. Même pas les anarques qui ont reconnu depuis quelques années son règne total sur la cité.
Eh bien, je sais pas si c'est des anarques ou si c'est une faction unique à Chicago et propre à Chicago. Je sais pas d'ailleurs... Pas énormément d'informations à ce stade sur leur nombre et leur niveau d'armement, mais en activant quelques contacts, je suis tombé sur la piste d'un certain Azrael qui aurait monté une secte de Nosferatu, portée sur le divin de toute évidence, peut-être dans une logique de rédemption un peu ridicule, qui serait en possession d'armes et qui projetterait de s'en servir contre les visions. Elle ricane un peu en regardant autour d'elle, en mode où sont les caméras de sécurité, en prenant plaisir à faire un peu peur à l'audience, contre les visions, peut-être ce soir même, mais aussi contre des cibles vampiriques que je ne connais pas forcément, mais j'en ai fait le rapport à Eden assez rapidement et on a convenu tout de suite de venir à l'Elysium pour vous présenter ces faits. Vous avez fait en sorte que vous puissiez vous assurer que ces personnes soient prévenues et éventuellement protégées.
Nelly se lève de son bureau et, loin d'être intimidé par les menaces que fait planer Marcy sur la cour, il a l'air de prendre la situation vraiment de manière... dérisoire, et il commence à dire « Eh bien, où sont ces Nosferatu cachés pour nous tuer ? Je crois que j'en vois un par ici. » Il pointe du doigt dans la direction de Pete, avant de faire un geste et comme si dans le vide il cherchait quelqu'un, quelque chose. « Eh bien, oh, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. »
MJ, elle sent l'invisible au cas où.
Tu peux me faire un jet d'Ospex plus astuce ?
Oui, hop.
Alors, 3 succès, c'est une bonne réussite en général. Et là, en l'occurrence, Armance ne remarque pas de personne comme ça occultée dans un coin qui serait prêt à passer à l'attaque. Vraiment, rien de surnaturel ne semble être à l'œuvre.
Très bien.
Bah, si on profite pour regarder dans l'audience qui sont ceux qui ont l'air de... Enfin, même si ça se voit pas comme ça, mais qui ont l'air d'utiliser leur sens vampirique ou leur pouvoir vampirique.
Ça, c'est quelque chose que tu peux difficilement constater. Par contre, tu vois que l'homme qui se tient juste à côté de Pete vient de lui jeter un regard un petit peu inquiet, comme si il se méfiait de lui.
Et donc, monsieur le sénéchal doit comprendre que les assassinats de Ventru dont la ville a souffert ces derniers jours sont moins inquiétants pour vous que un combat de SDF à la sortie d'un community center.
Écoutez, il y a bien eu des attaques sur plusieurs membres du clan Ventru, mais il ne s'agit pas d'assassins Nosferatu invisibles qui sont sortis de l'ombre pour les attaquer. Nous travaillons sur l'affaire, le shérif a mandaté une coterie pour s'en charger et nous avons des informations qui tendent dans d'autres directions.
elle va aussi spontanément, MJ, lever la main et n'attendant aucunement qu'on lui donne la parole, regardant Nelly fixement dans les yeux pour voir sa réaction. S'agit-il de Lou ?
Non, que nous racontez-vous ? Madame de Sadi, ne contribuez pas à la peur que ces jeunes enfants veulent répandre sur notre cour. Si vous avez des informations, là il s'adresse à nouveau à Marcy et à Ulysse, si vous avez des informations concernant une menace tangible sur des membres de la cour de descendants de Chicago, donnez-les et nous verrons de quoi il s'agit. Et s'il y a vraiment une crainte à avoir, mais il est un peu facile de brandir les assassins invisibles, comme par hasard on peut pas les voir.
Moi sur ces paroles, je me lève et je lui lance « Nous, on a des infos ».
Eh bien, monsieur Hill, c'est bien ça ?
Tout à fait, oui.
Vous avez des choses à ajouter à ce que nous disent ces deux personnes ?
Je suis pas persuadé que ces personnes soient en train de nous baratiner. On a effectivement quelques inquiétudes au sein du clan Nosferatu vis-à-vis de dissidents qui seraient potentiellement en train de s'armer dans les bas-fonds. On est en train de mener notre petite enquête interne. Si cette affaire est reliée à ce sur quoi enquête actuellement le shérif, je pense qu'on a affaire à quelque chose de gros.
Nelly soupire, visiblement ça ne satisfait pas du tout que on lui fasse traiter comme ça une situation qui s'avère être bien plus complexe que ce que ça devait être. Il va reprendre l'attention d'Ulysse. Bon, monsieur Hayden, que je résume.
Oui.
Il y a eu une brèche de mascarade alors que vous étiez présent.
Exact. J'ai fait tout mon possible pour la combler.
Cette brèche a lieu sous votre responsabilité d'une manière ou d'une autre.
Ah bon ? À quel titre ?
Eh bien, vous étiez présent, n'est-ce pas ?
C'est exact. Donc tout ce qu'on fait quand vous êtes présent, c'est votre responsabilité.
Il est difficile pour nous de ne pas croire qu'il n'y a pas une action de votre part ou une chose qui a fait que ces personnes, ce complot que vous agitez et jeter son dévolu sur ces personnes que vous nourrissez, peut-être pour les engraisser, j'imagine. Mais en tout cas, puisque cela s'est passé sur votre domaine, ou en tout cas sur celui de Mademoiselle, et pointe du doigt Marcy, je pense qu'il est de bon aloi que vous concédiez tous deux une faveur au shérif, puisqu'il a dû gérer cette affaire.
Non, mais c'est absolument hors de question. D'une, il n'y a pas de brèche de mascarade, puisqu'il n'y a pas eu d'action surnaturelle et un affrontement, un peu de sang qui a coulé, et parmi les couches les moins intéressantes et intéressées de la société. C'est absolument pas une brèche de mascarade.
Ah, tout de même, Balthazar a été obligé de manipuler les gens de l'hôpital et c'est regrettable qu'il ait eu à intervenir.
Il a eu à intervenir, déjà personne lui a demandé d'intervenir. Il a intervenu en pensant qu'il y avait une brèche de mascarade alors qu'il n'y en avait aucune et qu'il n'y avait ni pouvoir, ni présence empirique, ni démonstration de surnaturel quelconque. Il y a eu un blessé entre deux humains, comme ça arrive extrêmement fréquemment dans cette ville. Donc c'est absolument pas une brèche de mascarade.
Ce que vous ne semblez pas comprendre, mademoiselle, c'est qu'ici, en l'absence du prince et du shérif, c'est moi qui décide. Et il me semble tout de même que dans cette histoire, vous auriez peut-être pu faire plus pour vous assurer que le shérif ne se retrouve pas avec cette affaire sur les bras. Après tout, là il s'adresse à Ulysse, n'est-ce pas vous qui avez envoyé le blessé à l'hôpital ?
Pas du tout, moi j'ai évité qu'il ne meure pour ne pas que les autorités s'inquiètent encore plus et n'ouvrent une enquête sur un mort. J'ai contenu la situation afin qu'il ne soit que blessé et que l'affaire ne fasse pas la une des journaux avec des titres genre « Un mort au Community Center ». Je fais tout mon possible pour minimiser les faits auprès des autorités humaines. D'autres gens ont bien évidemment appelé l'hôpital comme les humains le font de manière tout à fait normale. Il aurait été encore plus risqué de ne leur dire de ne pas appeler l'hôpital. Ça aurait paru évidemment éminemment suspect immédiatement. Quant au shérif, nous avons fait exactement tout ce qu'il nous avait demandé. Je pense avoir déjà concédé ma faveur en menant l'enquête, en remontant jusqu'à Marcy. Et Marcy, peut-être, elle-même a déjà rempli une faveur au shérif en découvrant tout ce qu'elle a découvert et en lui apportant des informations qui sans doute lui seront précieuses.
J'ai ajouté que si quelqu'un doit une faveur à quelqu'un ici, c'est plutôt Hayden qui me doit une faveur.
Oui. Merci.
En l'occurrence, j'ai fait disparaître Mackenzie. Et deuxièmement, je vous apporte des informations tangibles et concrètes sur un groupe armé qui souhaite s'en prendre à des descendants et que vous prenez la dérision. Donc, nous verrons bien quand on en sera au prochain mort ou à la prochaine incartade à quel point vous accepterez de nous prendre au sérieux.
Quand Marcy est un peu véhémente, lui, ça a l'air de prendre à chaque fois ses distances. Je pense que nous avons clairement rempli la mission que le shérif nous avait confiée, donc je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin de lui accorder une faveur supplémentaire qu'il n'a pas sollicitée. S'il avait voulu que je me rende à l'hôpital, je m'y serais rendu. Il n'a rien demandé en l'occurrence.
Eh bien, le problème, c'est que c'est lui-même qui a dû découvrir qu'il y avait un problème. Et pour ce que j'en sais, c'est seulement quand vous avez été confronté que vous êtes chargé de vous occuper de celui-ci. Réglons cette affaire ainsi. Vous devrez au shérif Balthazar une faveur triviale. Je reste tout de même mesuré dans cette décision, hein, vous voyez. Faveur triviale, ce n'est pas grand-chose, mais vous aurez à lui rendre un service, en tout cas. Vous, mademoiselle, je vous épargne pour cette sanction. Cependant, faites attention, car vous nous dites qu'il s'agit là de votre domaine.
J'ai jamais dit que c'était mon domaine. C'est pas mon domaine. Enfin, j'ai simplement dit que je connaissais des gens qui fréquentaient ce lieu.
Oui, très bien. Bon, mettons. Dans tous les cas, mademoiselle, faites attention tout de même là où vous traînez. Maintenant, sur ces accusations que vous portez, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que des menaces sur la cour, s'il y en a, elles sont d'un tout autre ordre et que c'est plus les anarches qui menacent de faire des leurs, mais rien de plus. Et là, vous entendez une voix féminine qui intervient. Moi, je serais tout de même assez curieuse d'entendre ce qu'ils ont à dire sur ces menaces. C'est pour ça que vous êtes venu me déranger ce soir ? En vous retournant, vous reconnaissez immédiatement la belle femme afro-américaine qui a l'air d'avoir à peu près la quarantaine, mais vraiment, qui l'est fait à peine, avec une tenue élégante, un pantalon qui lui sied bien, un chemisier blanc. Elle a de belles tresses noires qui lui tombent sur les épaules.
Évidemment, je ne serais pas venu vous déranger, ni Marcy, pour quelque chose de moindre importance.
Très bien, il va falloir qu'on parle dans ce cas.